and the Sharks hold on. And game five goes to the San Jose Sharks.
On vient d'entendre un montage de la série entre les Sharks et l'Avalanche. On dit qu'en série, souvent, on découvre des joueurs. Je ne sais pas pour vous, j'ai toujours aimé suivre Thomas Sertel, mais j'ai l'impression qu'en série cette année, particulièrement depuis que Pavelski a quitté pour une blessure importante, Thomas Sertel a pris les choses en main. C'est tout à son honneur. C'est un bon joueur de hockey, Thomas Sertel, mais sincèrement, il joue comme un leader actuellement chez les Sharks. Timo Meyer va très bien également. L'ancien des Moussettes d'Halifax et des Huskies de Rouyn-Noranda. C'est drôle, ces deux équipes s'affrontent en grande finale. Le match numéro 3, d'ailleurs, est présenté ce soir du côté d'Halifax. Et Joe Pavelski, en fin de semaine, est sorti de son mutisme pour la première fois depuis sa blessure. Il a dit, « Sur le jeu où j'ai été blessé, il n'y avait pas de punition majeure. » Donc, Joe Pavelski est honnête. Il dit ce que tout le monde pensait depuis qu'on l'a vu, je dirais, tomber tête première sur la patinoire. Et sincèrement, Pavelski s'est blessé et en fin de semaine, il est... Il a jasé aux médias concernant sa blessure. Sachez également que dans le monde du hockey, il y a eu des... je l'ai dit dans mon intro tout à l'heure, il y a eu des gens qui se sont trouvés un emploi en fin de semaine. Michel Therrien, entraîneur adjoint avec les Flyers. Ken Harlan, DG des Oilers. Mathieu Darche, en charge des opérations hockey chez le Lightning de Tampa Bay. Et il va en avoir d'autres. Il y a encore beaucoup d'équipes de la LNH qui n'ont pas de d'entraîneur-chef. Et ça va bouger encore. Mais ça a quand même bougé en fin de semaine. OK, Will me dit qu'on est prêt à aller parler à notre prochain invité. Il est à Denver, au Colorado, pour le match numéro 6 de la série entre les Sharks et l'Avalanche. C'est François Gagnon de RDS qu'on joint à l'instant au téléphone. Salut François.
Bonjour Dan.
Comment vas-tu?
Très bien, très bien. Écoute, je regarde la présentation de la médaille présidentielle pour Freedom Presidential Medal qui est présentée à Tiger Woods en ce moment. Donc, ça peut pas mieux aller.
Parfait. Avant qu'on parle de la série Sharks Avalanche, j'ai une question pour toi concernant les embauches du week-end. Qu'est-ce qui est le plus surprenant pour toi? Toi, tu suis le hockey de la Ligue nationale depuis plusieurs années. Tu parles à beaucoup d'intervenants reliés aux différentes équipes. Qu'est-ce qui est le plus surprenant en date d'aujourd'hui pour toi? Michel Therrien, adjoint à Philadelphie ou Ken Harlan, DG à Edmonton?
Ken Harlan, DG à Edmonton, ça me surprend pas. Ça me surprend pas parce que c'est pas le genre de gars qui est capable de prendre une retraite. Ceux qui le connaissent bien, et c'est pas mon cas, là, je le connais évidemment professionnellement, mais ceux qui le connaissent vraiment bien, puis je côtoie les gars ici à Denver là, qui ont couvert les Red Wings longtemps, puis qui le connaissent là, intimement, et ils voyaient pas en train d'assumer un rôle de conseiller senior, de ramasser un gros chèque de 3 millions par année pour rester avec les Red Wings.
Okay.
Ils le voyaient comme directeur général. Maintenant, est-ce que Edmonton, c'est surprenant? Oui. Un peu, parce qu'il avait déjà décliné un peu cette offre-là, en raison là, de toute l'espèce de country club qu'il y a à Edmonton, puis un country club à l'intérieur duquel il va falloir qu'il fasse un peu de ménage s'il veut assumer sa job comme il faut, là, d'avoir les coups des franges. Donc, la surprise dans le cas de Kenny Holland, c'est pas le poste de DG, c'est peut-être la ville, parce que il était pressenti pour être directeur général à Seattle lorsque la nouvelle équipe là-bas va faire les embauches nécessaires pour élaborer sa nouvelle équipe. Maintenant, ton choix, là, c'était entre Holland puis les adjoints à Philadelphie, je pense, là.
Oui, Michel Therrien, en fait.
Les adjoints à Philadelphie, ça me surprend pas. Pas du tout. Si tu te souviens bien, quand Alain Vigneault a été nommé entraîneur-chef du Canadien, une de ses premières annonces officielles ou première embauche à lui, ça avait été de nommer Michel Therrien comme entraîneur-chef des Citadelles à Québec, qui était le club-école du Canadien.
Okay.
Moi, j'avais couvert pendant des années les Olympiques de Hull. J'étais surpris de voir cette nomination-là parce que Hull est dans le temps... Hull et Laval, dans le temps, c'était des rivaux là, sans bon sens. Alors, je voyais mal comment Alain Vigneault faisait confiance à un grand rival comme ça. Mais derrière la rivalité, il y avait aussi beaucoup de respect. Et Mike Yeo est un proche ami de Michel Therrien. C'était son adjoint à Pittsburgh. Alors, je vois dans ces trois réunions de trois gars-là, une espèce de triumvirat qui était envisageable si un ou l'autre obtenait un à un moment donné, quelque part autour de la Ligue nationale.
Est-ce que c'est le seul chemin possible maintenant pour des gars d'expérience de la Ligue nationale? Si le téléphone ne sonne pas, ils reviennent comme adjoints s'ils veulent un jour dirigeant en chef?
C'est pas le seul chemin. Regarde, là, Michel Therrien est allé dans la Ligue américaine avec le club-école de Pittsburgh, à Wilkes-Barre. Alain Vigneault était dans le club-école. Quand il est parti de Montréal, il est allé dans le junior. À Québec, il est allé à l'île du Prince-Édouard. En fait, les remparts, oui. C'était avant, je pense. Mais il est allé dans le club-école des Canucks de Vancouver, oui. Le Moose du Manitoba. Oui. Puis il s'est retrouvé à Vancouver après ça avec les Canucks. Donc, il y a ce sentier-là. Le sentier, je te dirais, le moins évident, mais qui peut être efficace quand ton réseau d'amis est solide, c'est celui, justement, de tes connaissances. Guy Boucher a eu la job à Ottawa. Il avait fait à Mark Crawford que un ou l'autre, le premier qui allait avoir la job dans la Ligue nationale allait amener l'autre comme associé. C'est ça qui est arrivé. C'est un peu ce que je vois présentement avec Michel Therrien et Mike Yeo qui deviennent les adjoints d'Alain Vigneault à Philadelphie. J'ai encore de la misère à le dire parce que ça me rentre pas dans la tête qu'il soit à Philadelphie. Mais c'est pas une surprise. Ce qui va être intéressant de voir, c'est de quelle manière trois coachs en chef comment ils vont trouver la manière de cohabiter ensemble. Ça sera pas tout le temps évident, ça, je suis certain.
François, quand tu dis que ça te rentre pas dans la tête qu'il soit à Philadelphie, tu parles d'Alain Vigneault?
Ouais, c'est ça. C'est une nouvelle formation. Je le sais pas. Je pensais qu'il serait à New York pour plus longtemps que ça.
Ah, okay.
C'est un entraîneur-chef de qualité. J'ai trouvé qu'il a été sacrifié à New York pour des mauvaises raisons. On a fait une reconstruction, puis on a décidé de donner l'équipe à un entraîneur plus à neuf, je veux bien. Mais Alain Vigneault avait quand même démontré là, toutes les aptitudes nécessaires pour rebâtir cette équipe-là, une autre. Là. Et puis, il l'obtient à Philadelphie.
Okay.
C'est peut-être aussi parce qu'il est en fait l'équipe Canada en ce moment, donc c'est encore plus difficile de l'imaginer dans ce rôle-là.
Oh, oui,
mais je peux te dire une chose, les Flyers à Philadelphie ont déjà des bons joueurs. Il semble s'être trouvé un vrai gardien numéro un. Alors, quand vient le temps de penser à l'an prochain, aux prédictions tout de suite en fonction...
Oui.
Dans l'Est qui vont accéder aux séries, il est difficile de penser que les Flyers ne seront pas dans l'équation.
OK. François, je sais qu'RDS t'envoie un peu partout pour couvrir les séries. Là, tu suis particulièrement la série Sharks-Avalanche. Je ne sais pas si tu es au Motel 8 ou au Marriott, mais à chaque fois que tu fais une phrase, ça coupe en plein milieu, comme si ton cellulaire sonnait sur l'autre ligne.
Ben, écoute, j'ai ce même sentiment. Je suis pas dans un hôtel de luxe, là. C'est pas un Motel 8 non plus.
Ben non, je t'agace.
Ça vient de le faire encore une fois, là. Ouais. Je sais pas pourquoi. Alors, regarde, un petit mieux qu'on prenne une pause deux secondes et que tu me rappelles sur mon cellulaire. Ça va peut-être être plus
ouais,
simple.
Ouais, je pense que ça va être plus simple. OK, on te rappelle tout de suite.
OK.
Merci à toi.
Faisons ça tout de suite.
OK. Je voulais juste démontrer aux auditeurs qu'on l'avait bien entendu, Will et moi, là. Ça finissait plus. Ça fait 5-6 fois depuis que j'ai commencé la discussion avec François où ça coupe. On s'efforce. Vous savez ce qui est un peu paradoxal? On s'efforce en radio d'avoir des lignes dures, des lignes terrestres. On dit, ouais, cellulaire, ça va couper, puis là, si tu bouges trop, les ondes, pas évident. Puis des fois, sur l'heure du souper, on vient qu'à parler à des gens qui sont souvent dans des arénas, parce qu'on fait une émission de sport de 18h à 19h. Donc là, il y a le béton de l'aréna, ça rentre pas bien. On s'assure avec François qu'on va avoir la ligne terrestre, la ligne dure, à sa chambre d'hôtel, et à chaque phrase ou à chaque deux phrases mentionnées par François, ça coupait. Donc, je suis convaincu que les auditeurs l'entendaient. Je voulais juste leur confirmer que je l'avais bien entendu, moi aussi. Puis c'est toujours... C'est jamais évident de trouver une qualité sonore idéale, mais je pense que ça va faire une plus belle discussion si on lui parle sur le cellulaire au cours des prochaines minutes. On a retrouvé François. François, on va se réessayer. 2e et 10, on va y aller au sol cette fois-ci.
Bon, ben parfait. Je suis pas vite pour courir, mais je vais faire mon gros possible pour garder le ballon dans
lui-même. OK, parlons des Sharks contre l'Avalanche, la série qui t'intéresse particulièrement. Nathan MacKinnon est, je dirais, le joueur par excellence des séries depuis le début. C'est impressionnant de le voir patiner et j'allais dire, manier la rondelle, mais je dirais quasiment dribbler la rondelle, si tu me prêtes l'expression, comme si c'était un joueur de basket, tellement il fait ça vite. C'est l'âme de cette équipe-là. Je disais dans mon intro ce soir, je sais pas si tu vas être d'accord, on dirait que l'Avalanche est à un petit joueur, peut-être Cal Makar vient d'arriver, il va avoir le 4e choix au prochain repêchage. On dirait qu'il leur manque un joueur ou deux pour devenir une équipe vraiment compétitive pendant 10 ans.
Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Il leur manque le gars ou les deux gars qui vont faire que le soir où MacKinnon va être un petit peu moins en forme ou que l'autre club va être trop efficace dans sa gestion pour le contrôler, que quelqu'un d'autre va réussir à prendre la relève. Et c'est ça qui manque un petit peu à l'Avalanche en ce moment. Tu as l'impression que quand MacKinnon puis ses compagnons de trio, là, peu importe que ce soit Landeskog et Rantanen ou qu'on place Rantanen sur le 2e trio, on a l'impression que c'est un club qui devient un petit peu trop vulnérable. Un peu comme à Edmonton avec Connor McDavid et puis Léon Draisaitl. Quand Draisaitl était au 2e trio séparé de McDavid, ça fonctionnait pas assez. Et c'est ce qui fait que malgré le fait que Draisaitl et McDavid qui ont franchi le plateau des 100 points, cette équipe-là n'a pas fait les séries. Donc, on voit que ça te prend de la profondeur. Il y en a une petite coche de plus du côté de San Jose. Et c'est ce qui a fait la différence jusqu'à maintenant. Et c'est ce qui peut-être fera la différence et qui va expliquer que l'Avalanche va être en vacances demain et que les Sharks vont se préparer pour la finale de l'Ouest.
François, quand tu parles aux joueurs des Sharks, as-tu l'impression que le moment clé, évidemment, de leur série, si on fait juste regarder en termes de résultats, c'est le match numéro 7. Il n'y a pas de doute. Ils obtiennent un 5 minutes, marquent 4 buts dans le 5 minutes. Mais est-ce que tu as l'impression que ça les a un peu plus soudés?
C'est une combinaison des deux choses. Oui, le 5 minutes. Mais ce qui les a vraiment soudés, c'est de voir leur capitaine étendu sur la patinoire, inconscient, avec le sang qui coulait, puis tout ça. Là.
Oui.
C'est un club qui est tissé serré. C'est un club qui a apporté, oui, des modifications au fil des dernières années. Il y a des jeunes qui sont rentrés. Mais tu sais, c'est le même club, entre guillemets, qui devait gagner la Coupe Stanley il y a quelques années, puis qui a perdu en 7 matchs contre les Kings de Los Angeles en première ronde après avoir pris les devants 3-0,
oui.
Puis qui a vu les Kings aller gagner la Coupe à leur place. C'est un club qui est en mission. Et ce qui est arrivé là dans le 7e match, c'est bien évident que c'est quelque chose qui te sert de tremplin. Et je te dirais que il n'y a pas vraiment de pression là, pour les Sharks. Il y a de la pression dans le sens que oui, il faut qu'ils gagnent. Là. Mais je veux dire, ils sont rentrés par la porte d'en arrière. Ils savent. Ils savent, comme tout le monde, que la décision qui a été rendue par les officiels ce soir-là n'était pas la bonne, que ça leur ouvrait la porte, mais qu'ils ont quand même marqué ces 4 buts-là en avantage numérique. Et là, ils sont là pour prouver que au-delà de l'accident qui est arrivé, ils sont en mesure d'en profiter. T'sais, s'ils avaient battu Vegas de la manière qu'ils ont battu, puis qu'ils s'étaient écrasés en 4 matchs après ça, ça aurait été vraiment dommage. Moi, j'ai favorisé l'Avalanche pour gagner cette série-là, mais de la manière dont les choses se passent en ce moment, les Sharks sont en train de prouver que oui, ils ont eu une chance dans le 7e match contre Vegas, mais qu'ils ne sont pas en train de la gaspiller.
François, tu dirais que les Sharks, tu sais, quand on regarde les grandes équipes de la Ligue nationale avec les grands leaders, on sait très bien que les Pingouins, c'est l'équipe de Crosby, puis les Blackhawks, c'est l'équipe de Jonathan Toews. Tu dirais que les Sharks, c'est l'équipe de qui?
Eh mon Dieu! Ça, c'est une vraie bonne question. Moi, dire, c'est l'équipe de Joe. Puis il y en a deux, puis c'est la raison pour laquelle je vais me servir juste des prénoms, de Jumbo puis de Mini Joe.
Okay.
Jumbo Joe,
ouais.
Thornton,
ouais.
Qui est là, puis les gars le savent. Là, il veut dire, on le voit, toi puis moi, puis le monde qui nous écoute en ce moment, là, on le voit que c'est plus le joueur qui a déjà été. Il y a de la misère à patiner. Le poids des âges, le poids des saisons, ça se fait vraiment sentir, mais ça demeure le leader charismatique de cette équipe-là. Et le leader, je te dirais, sportif, c'est Pavelski qui, lui, est encore au sommet de sa forme puis dans une dimension différente. T'as Brent Burns qui est là, t'as Eric Carlson qui, selon moi, ne fait que passer. Mais les gars qui sont là sont bien contents de compter sur un gars sur Carson, comme Carson. Ça va les aider à se rendre jusqu'au bout. Mais pour me limiter à ta question initiale, je te dirais que c'est le club de Joe Thornton et de Joe Pavelski.
OK, parfait. Est-ce que l'ambiance à Denver, c'est le sentiment d'une équipe jeune qui est en train d'impressionner, qui n'était pas supposée gagner contre Calgary, puis advienne que pourra, même s'il s'incline ce soir, ça aurait été une belle saison?
Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ne serait-ce que pour leur remontée. Tu sais, on était gâtés cette année en saison régulière quand on regarde que les Hurricanes, qui sont maintenant en finale de l'Est, ont déjà été derniers au classement général dans la saison. Les Blues de Saint-Louis ont déjà été derniers au classement général de la saison, puis ils s'en vont dans un match 7 pour passer en finale de l'Ouest. L'Avalanche du Colorado a eu une séquence, je pense, de 3 victoires en 20 matchs, quelque chose de même, et ils ont trouvé une manière de revenir en fin de saison, d'accéder aux séries et d'être là. Ce que tu me disais tantôt dans dans ton analyse des Sharks et de l'Avalanche, partout autour de la Ligue, c'est un peu la même chose. On voit le talent de MacKinnon, on voit qu'il est bien entouré au sein de son trio, mais on voit aussi qu'au-delà les jeunes joueurs qui s'en viennent, il manque un petit peu d'expérience et de talent pour faire de cette équipe-là un gros club, et le jour n'est pas loin que ça va arriver. T'as un gars comme Derek Brassard qui est arrivé, qui aurait peut-être été en mesure de le faire. Malheureusement, il ne l'a pas fait. J'ai l'impression que ça va lui coûter une chance de revenir ici l'année prochaine. Mais à la ligne bleue, t'as Tyson Barrie qui est là, t'as le jeune Makar qui est là, t'as Samuel Girard qui... C'est trois jeunes défenseurs-là, surtout les deux plus jeunes qui ont 20 ans. C'est déjà un big three en soi, là. Alors, il y a les éléments essentiels au sein de cette équipe-là pour devenir une très bonne équipe de hockey. Puis je rajouterais même que Philippe Grubauer donne raison à Joe Sakic de l'avoir... pointé du doigt en disant « Ah, il est disponible, lui. Washington est prêt à le libérer. Mais c'est ici qu'il va venir jouer. » Et il est devenu, au fil de la saison, le gardien numéro un de cette équipe-là.
Même s'il joue bien avec Columbus, on sent très bien qu'au Colorado, personne ne s'ennuie de Matt Duchesne. Un gros merci, François.
C'est toujours un plaisir. Bonne soirée.
Bonne soirée à toi. François Gagnon de RDS qui est à Denver, au Colorado, pour le match numéro 6 ce soir entre les Sharks et l'Avalanche.